Vous écoutez France Culture.
La rumeur du monde. La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, l'économie vue par Daniel Cohen. Nous recevons en effet Daniel Cohen, professeur d'économie, professeur à l'École normale supérieure et vice-président de l'École d'économie de Paris, car cette rentrée, qui est toujours sous le signe de la crise économique et financière, est aussi marquée par la publication d'un livre de Daniel Cohen intitulé « La prospérité du vice », avec comme sous-titre « Une introduction inquiète à l'économie ». Et c'est chez Albin Michel. Et donc ce livre, évidemment, soulève beaucoup, beaucoup de questions, car il embrasse au fond toute l'économie. Et il nous permet d'ailleurs de comprendre déjà. On voit que vous êtes professeur, Daniel Cohen, parce que vous avez à la fois le goût et vraiment une très grande capacité de pédagogie. Donc vous embrassez toute l'économie depuis Jésus-Christ à nos jours, en quelque sorte. Et donc, ça nous permet de revisiter un petit peu tout et de comprendre, ou d'essayer en tout cas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être de se projeter vers l'avenir, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile, avec au cœur de votre réflexion la notion de productivité, de rendement croissant, décroissant. Vous expliquez qu'au fond, les progrès sont arrivés lorsque l'on est passé d'une économie à rendement décroissant à une économie à rendement croissant. Mais la grande interrogation et l'inquiétude, ce qui justifie votre sous-titre, c'est au fond que vous demandez si on ne va pas revenir à une période de rendement décroissant. Et donc si toute la période que nous avons vécue depuis le milieu du 19e siècle à nos jours de phénoménaux progrès et croissance ne va pas justement se ralentir, voire s'interrompre ou s'inverser. Après tout, dans l'histoire de l'humanité, tout cela n'est que peu de choses ou une très courte période. Et donc ça justifie totalement que vous embrassiez au fond toute cette histoire et que vous nous la fassiez comprendre. Alors il y a évidemment 1000 sujets qu'on peut aborder à travers ce livre. Soit on peut se focaliser sur la crise économique et financière d'aujourd'hui, parce qu'après tout c'est notre inquiétude du moment, soit sur les perspectives qui peuvent être les nôtres au moment où ressurgissent des théoriciens et des adeptes de la décroissance, ce qui est quand même une interrogation majeure. On peut aussi retenir votre titre, « La prospérité du vice ». Est-ce à dire que le vice est au cœur du progrès de l'économie, ou est-ce qu'il peut exister une prospérité de la vertu, ou à l'inverse, est-ce que la vertu est synonyme de non-prospérité ? Bref, il y a 1000 angle possible, et je vais donc laisser à Jean-Claude Casanova du soin de décider du premier angle d'attaque. Jean-Claude.
Oui, moi je viens de lire cette semaine le livre de Daniel Cohen, que je trouve très riche et qu'il faut absolument recommander à tous les gens qui veulent réfléchir dans la perspective économique. Vous aviez dit que Daniel était professeur, c'est un livre parfait pour les jeunes étudiants. Je viens de lire en même temps, parallèlement, une étude faite par deux économistes américains qui s'interrogent sur les lacunes des économistes. Et ils disent, est-ce que les économistes doivent rendre des comptes ? Alors, à la fin de leur article, ils proposent un certain nombre de remèdes et ils disent, il faut absolument enseigner l'histoire économique et donner aux économistes un sentiment de la perspective et de la complexité de l'évolution historique, parce que sinon, ils fabriquent des modèles abstraits qui sont censés éviter les risques, et ce sont ces modèles abstraits censés éviter les risques qui, d'une certaine façon, ont provoqué la crise financière. Et donc, ce livre est un peu une antidote historique, si vous voulez, à la simplification mathématique, à la simplification par les modèles. Alors, j'ai au fond deux questions à poser à Daniel. Une qui tient à son titre. Je pense que quand il dit « la prospérité du vice », il fait allusion au thème classique chez Adam Smith et avant Adam Smith chez Mandeville, c'est-à-dire qu'il y a une grande révolution qui est créée par l'économie, en ce sens que la poursuite de l'intérêt individuel, de l'intérêt particulier, Mandeville dit le vice, la poursuite de l'intérêt particulier aboutit à l'intérêt public, ce qui est au fond l'inverse de l'enseignement traditionnel de la philosophie politique où, pour que la cité soit bonne, on demandait aux gens d'être vertueux, c'est-à-dire de penser à la collectivité. Là, on dit aux gens, pensez à votre intérêt, et si chacun pense à son intérêt, l'intérêt collectif en découle. La poursuite des intérêts individuels aboutit, si l'on veut, à l'enrichissement général, à la division du travail, à la spécialisation, etc. Alors, je pense que c'est bien son titre, il confirmera. Et du coup, ma question est un peu sur la problématique générale qu'on voit apparaître dans son livre et sur lequel j'aimerais connaître le fond de sa conclusion, si j'ose dire. C'est mon maître Raymond Aron disait, dans l'évolution historique, il y a deux choses, il y a le procès et le drame. Le procès voulait dire le processus. Le processus, c'est la science, le progrès technique, le progrès économique, la croissance. Alors qu'il provoque un certain nombre de difficultés, si vous voulez, qui sont les difficultés liées à l'économique, à la division du travail, etc. Mais, disons, le processus est quelque chose d'unificateur, d'uniformisant et d'unifiant, si j'ose dire. Et on voit bien, d'ailleurs, Daniel le dit dans son livre, la Chine va connaître le développement économique qu'a connu l'Europe, le Japon a connu le développement de l'Europe, etc., etc. Il y a une succession de pays qui passent par le processus de croissance. Il y a eu d'abord les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, puis l'Allemagne et les États-Unis, puis le Japon, l'Europe, la Chine, etc. Bon. Et en face, Aron dit, il y a le drame. Le drame, c'est l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des guerres, il y a des tensions, etc. Et les deux phénomènes, on ne sait pas très bien, il y a une inquiétude, une incertitude sur la relation entre les deux phénomènes. C'est-à-dire que, est-ce que le processus économique, comme l'ont pensé à l'origine les économistes, mais ils sont aujourd'hui moins affirmatifs, est-ce que le processus est une forme de pacification, la mondialisation, l'unification, etc. Et est-ce que les drames vont subsister? Est-ce que le processus va effacer les drames? Ou bien est-ce que les drames ont une nature propre qui est liée à la nature humaine ou à la nature sociale? L'affaire iranienne, les tumultes en Afrique, le problème du Moyen-Orient, la frontière de la Russie, la frontière de la Chine, etc., etc. Donc au fond, c'est la grande question de la relation entre l'économie et la politique sur laquelle, à l'arrière-plan, indépendamment de sa magnifique histoire économique, histoire de la pensée jusqu'à nos jours, jusqu'à la crise financière, c'est le grand problème des relations entre l'économie et la politique que pose, je crois, Daniel.
Voilà, Daniel Cohen, une façon de présenter tout aussi large que votre propre livre, Daniel Cohen.
Oui, ben merci à tous les deux. C'est vraiment exactement ça. En tout cas, les contours de ce que j'ai essayé de faire tombent exactement sur les questions que vient d'évoquer Jean-Claude. Deux points. D'abord, en effet, la prospérité du vice, bien sûr, ça vient directement de Mandeville, d'Adam Smith, qui était convaincu, Jean-Claude vient de le rappeler, que, au fond, le vice individuel pouvait devenir vertu publique. Ce qui est extraordinaire, c'est en effet, en lisant Adam Smith, en lisant évidemment son premier ouvrage, La théorie des sentiments moraux, qui est tout un programme, c'est extraordinaire de mesurer à quel point Adam Smith n'a aucune illusion sur la nature humaine. Il pose exactement cette question. Pourquoi tout ce tapage, ce remue-ménage, dit-il? Pourquoi toute cette ambition? Pourquoi cette recherche de richesse? Et il dit absolument pas pour nos aises ou notre confort, c'est tout simplement pour le souci d'être considéré, remarqué, distingué des autres. C'est notre vanité, dit-il, qui est le moteur des actions humaines et absolument pas la recherche de notre bien-être, on dirait aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible et on a fait à cette occasion-là, bien sûr, le lien tout à fait évident entre Adam Smith et Mandeville qui disait les choses d'une manière encore plus crue quelques décennies auparavant. Avant, Mandeville disait le vice est tout aussi indispensable à une société prospère que l'envie de manger est indispensable à la production de blé. Sans appétit pervers, il n'y aurait pas de richesse et nos sociétés seraient tristes et décadentes. Donc il y a bien, dans la constitution de l'économie politique, ce regard extrêmement sombre en réalité sur l'économie. Mais ils en déduisaient que c'était un facteur de prospérité. Au fond, le titre aurait pu être « La prospérité du vice ?», point d'interrogation. C'est-à-dire, est-on si sûr que ce vice est un facteur d'enrichissement que pouvait l'être avec cynisme en réalité, en tout cas avec distance, nos grands ancêtres du XVIIIe siècle, en l'occurrence Adam Smith et Mandeville. Et voilà, c'est ça la question. Alors le deuxième point, c'est exactement ce que Jean-Claude vient de dire. Est-ce qu'on peut vraiment, et je veux dire, j'avance dans cette question sur un mode évidemment totalement interrogatif, ce serait ridicule de vouloir dire c'est comme ça et pas comme ça, mais En effet, la question, la façon de reformuler cette question, c'est cette opposition que Jean-Claude vient de rappeler. Entre, au fond, on va dire un processus, un procès de techniques croissantes qui donnent à l'homme les instruments d'une richesse augmentée et qui, bon an mal an, amène à un monde pacifié, c'est un peu, au fond, la vision des Lumières dans ce même XVIIIe siècle, l'idée qu'une société qui commerce, eh bien, adoucit ses mœurs, une société qui, se scolarisant, c'est l'idée de Condorcet, la première est évidemment de Montesquieu, eh bien, va forcément faire progresser la raison. Est-ce que ce processus-là, il est bien à distinguer du drame de l'histoire, hein, pour reprendre cette formule, et au moins à lui seul, est garant de cette marche vers la prospérité. C'est ça la question. Et je crois qu'au fond, j'y réponds négativement en expliquant que ce processus lui-même n'est pas un facteur de pacification. Alors, comment voir ça? Alors, d'abord, tout simplement par un retour au mécanisme décrit par Adam Smith et les autres. C'est-à-dire que si on suit ce raisonnement, qui pendant longtemps est resté un raisonnement, une hypothèse, mais en réalité sans conséquence, puisque ce qui intéressait, c'était justement de voir que tout ça conduisait à la richesse et que la richesse était un bien en soi qui était un facteur de pacification. Mais justement, en revenant sur le raisonnement lui-même, qui est que les hommes cherchent à s'enrichir, non pas pour leur bien-être, leur confort, ce qui pourrait être un facteur de paix, mais parce qu'ils sont habités par ce sentiment de la rivalité avec autrui. Si c'est ça le processus, alors on comprend qu'une société qui est habitée par un tel processus ne peut pas se pacifier. Enfin, c'est Hobbes sous d'autres jours. On est sans cesse dans un processus de rivalité avec les autres. Donc, il n'y a pas de paix sociale. Presque d'une certaine façon, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'industrialisation démultiplie la capacité de rivalité sociale, puisqu'elle offre beaucoup plus de choses qui sont des motifs de rivalité. Et cette question qui paraît très abstraite et presque indécidable a retrouvé dans la littérature économique récente un formidable rebond. Et je les cite évidemment abondamment, c'est lié à toute la ligne de recherche qui a été ouverte il y a déjà quelques années par un économiste qui s'appelle Richard Easterlin et qui a rebondi dans la littérature spectaculairement au cours de ces 10 dernières années et qui pose là vraiment la question très simple et qui est la suivante, qui est de dire toute cette richesse nous rend-elle heureux ? Question bête et qui semble tautologique. On est riche, donc on est plus heureux. Et à travers beaucoup d'enquêtes, alors qui sont distinguées, qui sont critiquées, qui sont sans cesse remises en question, mais au fond, qui semble aujourd'hui, dans la profession des économistes, aujourd'hui, je crois, faire plutôt consensus. À travers, donc, en tout cas, toutes ces interrogations, êtes-vous plus heureux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, suivant un panel de gens, qu'est-ce qu'il vous faudrait comme supplément de revenus pour être heureux aujourd'hui, eh bien, on voit qu'il n'y a aucune tendance croissante à la réponse « Êtes-vous heureuse ? Êtes-vous heureux ou heureuse ?» On voit qu'au contraire, il y a une espèce de formidable stabilité au cours du temps de la réponse à cette question, comme si la richesse ne produisait aucun bonheur. Alors, on est rentré très dans le détail et on voit que c'est évidemment pas vrai. Quand on donne 50% de revenus de plus à quelqu'un, ça augmente et ça décroît tout de suite après.
Justement, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que c'est pas la richesse en elle-même qui rend heureux, c'est l'acquisition de la richesse, c'est la progression dans l'ordre de la richesse, et notamment pas la progression en soi, la progression relativement aux autres. Et donc on revient sur la problématique du vice, et on comprend mieux certains mots d'ordre politique, parce qu'on voit bien que ces analyses débouchent concrètement en politique sur « moi je vais vous proposer de gagner plus ». Et donc évidemment, on a là à la fois un ressort qui touche très profond et qui explique certaines victoires électorales. Jean-Claude Casanova.
Oui, là, dans les questions que pose Daniel, on retrouve les questions, si j'ose dire, de philosophie classique, c'est-à-dire est-ce que l'enrichissement donne le bonheur et est-ce que l'enrichissement donne la paix ? Alors, réglons, si j'ose dire tout de suite, le problème de la paix, parce que, comme il le dit plusieurs fois dans son livre, l'industrialisation et l'enrichissement ne donne pas nécessairement la paix. La guerre de 14-18, il invoque Schumpeter en d'autres endroits, mais Schumpeter l'a très bien expliqué. La guerre de 14-18 a opposé des nations industrialisées, à l'exception de la Russie qui ne l'était pas complètement, mais en gros les nations les plus industrialisées du monde. Simplement, elles avaient entre elles des ambitions politiques et des régimes politiques différents. Schumpeter dit ce qui caractérisait l'Allemagne et le Japon, c'est qu'au fond, c'était des structures pré-démocratiques avec une forte industrialisation, par opposition à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, de même pour le Japon. Et donc, au fond, ce n'est pas l'industrialisation qui garantit la paix. La question qui est posée, et qu'il faut poser de façon hypothétique, c'est de savoir si c'est l'universalisation de la démocratie qui créera la paix. Parce que le premier qui a posé le problème, Kant, dit ici, pour que le monde soit pacifique, pour qu'on ait la paix universelle, il faut qu'il n'y ait que des républiques. Et comme elles échangent, à la fois pour des raisons économiques qui tiennent à l'échange, au commerce, et pour des raisons qui tiennent à la forme politique, à la nature politique, elles ne seront plus belliqueuses. Mais comme ce n'est pas le cas, si vous voulez, nous ne pouvons pas encore parfaitement vérifier l'hypothèse de Kant. Mais l'économie ne résout pas le problème de la paix. Alors résout-il le problème du bonheur ? Bien sûr, il ne résout pas les problèmes métaphysiques, mais quand même, si vous voulez, le progrès économique, si depuis un siècle, un peu moins d'un siècle, on met l'économie au centre de tout, si on regarde historiquement, si vous voulez, tous les peuples aujourd'hui se définissent par la glorification du taux de croissance. C'est un phénomène qui date au fond des années 30. Il y a 80 ans, si vous voulez, que le monde se dit, ce qui distingue un pays d'un autre, c'est la force de son taux de croissance. Plus le taux de croissance est élevé, et plus les biens publics sont arrivés. Ce qu'on n'aurait jamais dit avant. Un de mes amis me faisait remarquer que l'expression « les Trente Glorieuses » est une expression un tout petit peu comique, parce que il ne serait jamais venu à l'idée d'un Français classique du XVIIe ou d'un Français du XIXe de lier la gloire avec la prospérité économique, avec le taux de croissance. On voit que la notion de gloire change totalement de nature. La gloire, avant 1914, c'est tout sauf l'augmentation de la quantité de biens par individu. Et aujourd'hui, on appelle glorieuse des années avec taux de croissance élevé. Donc, malgré tout, on a le sentiment que les collectivités se disent que les gens sont mieux si le taux de croissance est élevé. Et c'est quand même vrai objectivement pour toute une série de problèmes. C'est allongement de la durée de la vie, réduction des maladies, augmentation du confort, accroissement des mètres carrés par habitant, etc. Malgré tout, je veux bien admettre que ce n'est pas le bonheur au sens absolu, moral ou métaphysique du terme, mais c'est incontestablement, l'économie apporte des améliorations.
Daniel Cohen.
Non, mais on touche le cœur du problème. Le taux de croissance est un facteur de bonheur, c'est sûr. Mais ce n'est pas le niveau de la richesse qui est un facteur de bonheur. Tout est là. Bien sûr, on est heureux quand on vous donne 5-10% de revenus en plus chaque année. Ça, c'est indiscutable. Mais la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui en France, en 2009, avec un revenu qui est le triple de celui qu'avaient les Français en 1950 ? Ou est-ce que vous étiez plus heureux en 1950, où vous étiez à la fois beaucoup plus pauvre et avec un taux de croissance beaucoup plus rapide? Et la réponse est indiscutable, c'est celle que vous avez donnée, Jean-Claude, à l'instant. C'est les Français étaient beaucoup plus heureux dans les Trente Glorieuses. Lorsque tout était neuf, on découvrait tout, il y avait une croissance qui semblait indéfinie de la nouveauté, relativement à la situation aujourd'hui où les Français sont morose et malheureux, parce que justement, les nouvelles frontières, etc., sont beaucoup plus de la consommation, sont beaucoup plus difficiles à saisir. C'est le cœur de la question. Je cite, je crois, Ernest Gellner dans le livre.
Oui, il y a naturellement un chapitre sur les Trente Glorieuses dans votre livre, bien sûr. Daniel Cohen.
Oui. Et donc, je cite, je crois, Ernest Gellner, un sociologue célèbre, qui dit la grande faiblesse de notre idéal, c'est qu'il est très vulnérable au retournement de notre croissance. Même la stagnation paraît un appauvrissement. Et c'est ça le cœur de la question. Alors, d'abord, c'est le cœur de la question, je dirais, de deux manières. Une, c'est que cette croissance indéfinie, elle dépend de quelque chose de très erratique, le progrès technique. Et puis aujourd'hui, Jean-Marie le rappelait au début, eh bien, buter sur quelque chose d'inédit depuis le début du XVIIIe siècle, si on peut dire, c'est-à-dire cette mondialisation qui, tout d'un coup, rend l'espace de la planète clos et pose le problème de l'écologie des matières premières. Mais suspendons ça pour l'instant, même si, naturellement, c'est la grande question du XXIe siècle, à l'aune de ce regard que l'on peut porter sur le déterminant du bonheur, l'augmentation. Bon. Mais revenons même en deçà de ce problème. Si en effet ce qui détermine notre bonheur, c'est le taux de croissance, quel que soit le point de départ, on voit qu'en effet nos sociétés industrielles sont très fragiles au cycle économique. Quand tout va bien, on est très heureux. Il y a un surplus social, et là je reprends la théorie d'Albert Hirschman, très intéressant, qui exactement fait ce distinguo-là. Quand tout va bien, c'est-à-dire que la croissance est au-delà de nos attentes, crée un horizon nouveau, alors on est heureux, et d'une certaine façon même, on peut devenir altruiste, c'est-à-dire qu'il y en a plus que ce qu'on avait prévu, et on peut mobiliser nos énergies pour des actions collectives. Je fais ici le lien avec la question de la guerre et de l'industrialisation, car ce surplus, il a un usage qui est pour le coup indéterminé. Je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Claude, la référence à Schumpeter me va aussi sur l'opposition entre l'ordre moderne et prémoderne, mais cette opposition et la façon dont elle déclenche éventuellement les guerres est quand même nourrie par les cycles économiques. C'est-à-dire qu'en gros, on fait la guerre quand tout va bien, parce qu'il y a un surplus collectif qui permet de mobiliser des ressources. Alors dans les années 60, on a construit la sécurité sociale, dans les années 10, on a préparé la guerre, mais c'est au fond quand même le même raisonnement économique qui est à l'œuvre. En revanche, dans les périodes de récession, de croissance, nul ou plus faible que ce qui était attendu, on est très malheureux, on devient individualiste. Alors peut-être que je vais trop loin quand je suis Hirschman sur ce point, mais c'est ce que dit, disons, Hirschman pour avancer dans le raisonnement. Et à ce moment-là, la société est très fragile. Et le paradoxe des sociétés industrielles, c'est qu'elles produisent un sentiment de richesse, d'aisance, prompt aux actions collectives, quand au fond, on n'en a pas besoin, quand tout va bien. Et quand on en a besoin, c'est-à-dire que quand il y a une récession, quand il y a une crise, quand il y a besoin justement de solidarité entre les membres d'une société industrielle qui devient fragile, ben il n'y a plus personne. Et là, à ce moment-là, on passe d'une explication de la Première Guerre mondiale, tout va bien, on est riche, on peut s'armer, et à une explication de la Deuxième Guerre mondiale qui est que quand ça se rétracte, quand il n'y a plus de surplus, quel que soit le niveau de départ, il n'y a plus de solidarité, la société peut parfaitement partir en crise en cherchant des solutions, alors pour le coup irrationnelles, à la question qui est posée au départ. Donc je pense qu'en effet, vous avez raison encore une fois Jean-Claude de dire, notre société produit du bonheur avec le taux de croissance, et vous l'avez dit très spontanément parce que c'est bien ça qui se passe. Mais comme disait Alfred Sauvy, l'homme moderne est comme un marcheur qui n'atteint jamais l'horizon. D'ailleurs, Sauvy avait parfaitement anticipé tous ces débats. Il avait fait lui-même des enquêtes. Il avait dit aux gens qu'est-ce qu'il vous faudrait comme supplément de revenus pour être vraiment heureux. Les gens répondent un tiers. Il suit le même panel 20 ans plus tard. De fait, les gens sont un tiers plus riches. On repose la question. Les gens répondent exactement la même question. Allez, encore un dernier petit tiers, on serait heureux, on n'y arrivera jamais. Alors bon, voilà, ça c'est la société industrielle, c'est ce qui me fait faire le lien, je dirais, entre ces drames et la société industrielle elle-même. Je pense que la société industrielle, en effet, comme disait Gellner, a une immense faiblesse, c'est qu'elle a besoin de toujours plus pour se pacifier en interne, avec justement tout cet effet cyclique que je viens de citer.
Alors avant de parler peut-être plus précisément de la crise financière actuelle, parce qu'il serait dommage, Daniel Cohen, de nous priver de votre regard sur la situation actuelle, revenons d'un mot sur les problématiques de la paix et de la guerre, parce que dès qu'on jette un regard historique, c'est en effet celui-là qu'il faut avoir. Et dans un de vos chapitres, vous consacrez à la Chine, évidemment, vous esquissez au fond un raisonnement qui pourrait rapprocher la Chine d'aujourd'hui de ce que fut l'Allemagne de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une puissance rattrapant les autres sur un modèle industriel fort et qui se tourne ensuite vers des objectifs nationalistes, etc. Alors c'est toute la question du nationalisme, du protectionnisme, etc. Quel regard portez-vous aujourd'hui donc sur cette Chine et quelle chance donnez-vous à un tel processus de se reproduire ou alors nous sommes dans autre chose puisque aujourd'hui les questions de l'édification à terme, je ne sais pas de quand, d'une zone d'union économique entre Chine, Japon, Corée du Sud, etc., qui entraînerait un autre raisonnement qui a été le raisonnement des Européens après la guerre. Daniel Cohen.
Donc c'est sûr qu'il y a un parallélisme à faire. Maintenant, tirer de ce parallélisme une nouvelle forme de déterminisme, ce serait évidemment complètement stupide et c'est pas du tout ce que j'aurais voulu dire. Mais effectivement, un parallélisme s'impose, exactement pour les raisons d'ailleurs que Jean-Claude rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire les raisons données par Schumpeter d'explication de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une nation dans laquelle les ordres prémodernes restent très forts. À l'époque, c'était les Junkers prussiens. Aujourd'hui, on a envie de dire que c'est le Parti communiste, tout simplement, qui trouve les instruments d'une puissance totalement inespérée dans une industrialisation. Le grand historien allemand Winkler disait « L'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, voyait bien qu'elle était devenue ou en train de devenir la plus grande puissance industrielle d'Europe, qu'elle dépassait l'Angleterre dans tous les domaines, les industries de pointe, à l'époque c'était la chimie, les engrais, etc., y compris dans la puissance navale, l'Allemagne était en train de construire une flotte extraordinaire, elle voyait bien qu'elle était la plus grande puissance industrielle, et évidemment, ajoutait-il, pour la droite allemande, ça ne suffisait pas, il fallait être la plus grande puissance tout court, voilà. Et bon, après, on peut toujours dire qu'il y a eu une série de circonstances particulières qui ont provoqué cette guerre-là, mais on voit bien ici toute cette tension d'un monde dont l'industrialisation donne, en tout cas à ceux qui veulent l'utiliser, les moyens d'une puissance tout court, qui leur permet de passer d'une puissance industrielle à une puissance tout court. Donc là, on a, je crois, un parallélisme totalement frappant, et l'idée selon laquelle ça se passera comme chez nous, que l'industrialisation créera la scolarisation, créera la démocratie, oublie tout simplement que chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Si on veut bien inclure dans le « chez nous » l'Allemagne, oui, l'Europe et tout le monde. C'est-à-dire que la première occidentalisation du monde, elle s'est passée en Europe et elle s'est mal passée. Et d'ailleurs, le titre de Winkler, c'est « La longue marche vers l'Occident ». C'est une histoire de l'Allemagne au 19e et au 20e, une longue marche, la longue marche vers l'Occident. Ça s'est mal passé. Bon, il ne faut évidemment pas se dire que ça va forcément mal se passer cette fois-ci, mais il ne faut pas, en tout cas, se raconter l'histoire sur le fait que tout va bien, ils s'occidentalisent et ils achèteront, au fond, le même modèle que nous. Non, je crois qu'il faut quand même de la prudence, de la vigilance. Alors, ce qui change quand même les choses, effectivement, c'est le fait que cette fois-ci, la Chine vit dans un environnement qui est différent. Et c'est, j'ai envie de dire, l'aspect de la mondialisation aujourd'hui qui est le plus neuf par rapport à ce qui pouvait déjà exister au 19e et au 20e siècle, mais qui n'était pas du tout aussi développé que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est quoi ? C'est peut-être tout simplement le fait que l'histoire continue. L'histoire occidentale, en tout cas, continue. Et le chariot de l'histoire des pays émergents la rejoint de façon qui répète notre propre histoire, mais qui aussi se raccroche au wagon de tête. Et le wagon de tête, c'est, au fond, on va dire, le cybermonde qui est en train de créer une société de la communication planétaire. Il y a quelque chose qui est neuf dans le monde actuel, qui est que la longue marche vers les rendements croissants, pour reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait qu'on cherche une économie qui tente au fond à se dématérialiser de plus en plus pour justement toucher le plus grand nombre le plus vite possible, eh bien ça crée une équation un peu différente. Il y a une conscience universelle qui est en train d'apparaître dans le monde. Alors, la Chine, évidemment, fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'endiguer ça, mais elle est quand même, elle aussi, immergée là-dedans. Et là, oui, il y a une culture du monde qui est en train d'apparaître. Une culture, on va dire, d'abord scientifique, naturellement. Donc, la Chine a besoin de ça. Donc, il y a des échanges qui se font et qui... rendent plus poreuses les frontières, on va dire, de la Chine avec le reste du monde et notamment avec les États-Unis. Et puis, il y a la question écologique. Il y a la question écologique, alors là, qui est très, très bizarre, puisqu'elle donne à la mondialisation ce tour nouveau qui est que tout d'un coup, le monde devient étroit, alors même que, justement, on croit pouvoir passer à de nouvelles frontières immatérielles, cognitives, etc. On est, en effet, vous le rappeliez, Jean-Marie, tout à l'heure, ramené à la question des origines, c'est-à-dire, est-ce que finalement, on est bien sûr d'avoir les moyens de cet enrichissement généralisé ? Donc, tout ça crée des équations nouvelles. On a une répétition de l'histoire, je crois, pour aller très vite, l'occidentalisation du monde, comme on a eu une occidentalisation, pour reprendre cette expression un peu bizarre, de l'Europe elle-même. Et en même temps, on a des problèmes nouveaux, cette conscience universelle peut-être qui va émerger du cybermonde, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la porosité nouvelle aux idées et donc aux idées démocratiques, ce qui renvoie à la question de Kant dont parlait Jean-Marie, et puis un retour à la finitude du monde qui donne à la planète ce sentiment inédit d'être un tout.
Jean-Claude Casanova ?
Oui, juste un mot sur la Chine. Je crois que à terme, à 10 ans, le problème est relativement facile à traiter. C'est-à-dire que tous les voisins de la Chine s'inquiètent, depuis le Vietnam, l'Inde, la Corée, le Japon, l'Australie. Et il suffit de regarder leur budget d'armement, ils développent leur puissance militaire. Mais la Chine ne paraît pas menaçante, ne développe pas exceptionnellement ses forces, etc. Et comme l'a dit Daniel, comme elle est intégrée dans le système international et qu'elle est au fond dépendante, elle a besoin d'exporter et elle a besoin de placer l'excédent de sa balance des paiements. Donc, elle ne peut pas se passer du reste du monde. Donc, pour l'instant, la Chine n'est pas du tout menaçante. Les Japonais, les Australiens ou les Indiens se méfient à long terme parce qu'effectivement, l'histoire est imprévisible et une grande puissance peut être inclinée à user de sa puissance. Mais pour l'instant, disons, la chose est plutôt pacifique. En revanche, en ce qui concerne le problème écologique, indique Daniel, le problème est très difficile. Il est lié en grande partie à la croissance démographique. Un monde de 7 milliards, plutôt plus bientôt, d'habitants pose des problèmes, surtout si ce monde va s'industrialiser. Daniel donne, je crois, le chiffre de ce que serait la consommation automobile chinoise si brusquement les Chinois arrivaient au niveau de consommation européen ou américain. À eux seuls, ils utiliseraient la totalité de la production pétrolière aujourd'hui, je crois. C'est le chiffre que donne Daniel. Donc, incontestablement, il va y avoir des problèmes. Et ces problèmes sont très difficiles à résoudre, si j'ose dire, pays par pays. Je ne crois pas honnêtement que la taxe française va résoudre le problème écologique mondial.
On n'en a pas l'ambition non plus.
Non plus, d'accord. Donc,
elle ambition plus modeste.
Elle va réduire le déficit public.
Elle a surtout l'ambition de... Oui, c'est un arrière-plan politique non négligeable. Oui, tout à fait.
Donc, mais il faudra... L'écologie fait apparaître une nécessité de solidarité mondiale plus forte que cela ne s'est produit dans le passé, équivalente à ce qu'a été la solidarité en matière postale ou en matière maritime, c'est-à-dire des problèmes que seul on ne peut pas résoudre et qu'on doit résoudre dans la coopération.
Alors, Daniel Cohen, pour avancer vers la fin de ce que nous pouvons dire autour de ce livre, donc La prospérité du vice, l'actualité nous a, ou peut-être vous a amené, ou peut-être était-elle même le point de départ de votre réflexion, au cœur de votre énoncé, puisqu'il s'agit d'énoncer le vice, et qu'on a lu partout, on le lit moins maintenant d'ailleurs, notamment aux États-Unis, qu'au cœur de la crise, il y avait cette notion de cupidité, greed, pour employer le mot américain. Et donc, on voit bien que dans le processus qui s'est déroulé, passé le moment de panique, de colmatage, de renflouement, et qui allait de pair avec un discours politique sur la régulation et, ou la réglementation, et en tout cas de repousser un certain nombre de pratiques, on voit bien que les choses tendent à se remettre en place. Ce qui est évidemment, si c'était le cas, dramatique, parce que par définition, revenir à l'état antérieur, c'est se replacer dans la situation qui a provoqué la crise. Donc si ça devait être le cas, il faudrait en effet craindre un nouvel ébranlement, peut-être plus fort, celui-là. Donc comment jugez-vous l'état des lieux en ce domaine, Daniel Cohen ?
Oui, c'est indiscutable que le titre, en tout cas lui-même, sinon le livre lui-même, vient de cette... vient de cette crise. Hein. On se souvient tous en effet du film Wall Street d'Oliver Stone, dans lequel le héros incarné par Michael Douglas dit « Greed is good ». C'est vraiment exactement le sujet. C'est vraiment Mandeville, c'est vraiment Adam Smith. C'est très bien, voilà, c'est ça le moteur du monde. D'où, en fait, ce qui devrait être le point d'interrogation du titre. Mais c'est bien sûr ce que les lecteurs comprendront. Et est-ce qu'on est si sûr que ça ? À l'heure où, justement, on voit ce greed fabriquer la crise la plus extraordinaire depuis 1929. Donc, c'est sûr que le monde actuel, la financiarisation de l'économie, comme on dit, repose ces vieilles questions. Moi, je crois que cette crise financière, bon, bien sûr, c'est une pathologie liée au mode de fonctionnement de Wall Street, de la City aujourd'hui. Il faut revenir là-dessus, il faut réglementer. Mais je crois quand même que c'est plus profond. Et c'est pour ça que ça ne partira pas si facilement. Et c'est pour ça que, quels que soient les efforts de réglementation qu'on pourra faire, je crois qu'on aura beaucoup de mal, justement, à faire revenir le dentifrice dans le tube, pour reprendre l'expression de Milton Friedman. Il s'est passé, dans les années 80, quelque chose de très simple et de très brutal. On a voulu refermer la page qui avait été ouverte, on va dire, depuis 1929. On a pensé que tout ce monde qu'on avait fabriqué après-guerre et qui était justement nourri de toutes ces crises dont on a parlé à l'instant, les deux guerres, le sentiment de la fragilité du monde et les crises financières elles-mêmes, on a fabriqué un monde, on va dire, pour dire vraiment les choses un peu trivialement, plus coopératif. On avait un monde dans lequel on essayait de faire tenir la société parce qu'on voyait qu'elle était fragile. La société industrielle parce qu'on voyait qu'elle était fragile. Je cite d'ailleurs, je crois, dans le livre Peter Sloderji, qui dit très, très drôlement, c'est une époque, les années 50-60, où les ouvriers savaient que s'ils voulaient obtenir leur revendication, revendications, eh bien, il suffisait de jeter, monter un peu leur regard, tourner un peu leur regard vers l'Est, puis ils rappelaient très vite au patron que la paix sociale avait un prix. On était habité par ça, par l'idée que la paix sociale avait un prix, qu'il fallait faire attention, que les sociétés étaient fragiles, qu'il fallait réfléchir avec la sécurité sociale. Au sein des entreprises même, il y avait une espèce d'idéal type qui était qu'on fait carrière, on gagne ses galons à l'ancienneté, à la promotion, que le patron d'entreprise, c'était le dauphin, souvent le numéro 2 qui était désigné. On avait cette idée qu'il fallait protéger la société industrielle un peu contre elle-même. Et dans les années 80, l'oubli faisant, la fin de la guerre froide approchant, évidemment tout ça a été amplifié après la chute du mur de Berlin, on s'est dit tout ça c'est des foutaises. La crise de 29 c'est un événement pathologique, ça se répétera jamais, on est beaucoup trop prudent et du coup on bride la productivité, la croissance, la fameuse croissance de fait qui était en phase de ralentissement accéléré dans les années 70. Et donc on a rouvert la boîte de Pandore. On a cassé ce vieux modèle, on a découpé en tranches les entreprises, on a substitué, on va dire, à une politique basée sur l'ancienneté, le souci du long terme de la carrière des salariés, des bonus, des incitations immédiates, très rapides, à faire on est productif, et on a, au fond, détruit cette vieille société industrielle, et on ne peut pas dire qu'on en ait créé une autre. On a détruit une société industrielle, et on est rentré comme ça dans l'inconnu, d'une société gouvernée par ce que le capitalisme croyait être sa morale, c'est-à-dire la morale du greed, du revenu court, etc. Et l'effondrement de Wall Street qui s'est produit avec cette crise, c'est l'ombre portée de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le dérèglement organisé, pensé depuis les années 80 de notre vieille société industrielle. Donc fin du syndicalisme, fin de tout ça, voilà. C'est, tout ça a été mietté maintenant. Et donc c'est ça qui me rend inquiet, pour reprendre le sous-titre du livre, c'est je ne sais pas comment on va reconstituer ça. C'est là que, sans doute, la politique va rejouer un rôle, parce que je ne vois pas de l'intérieur de cette nouvelle société, entre guillemets, post-industriel, pour le dire comme ça, émerger les formes de solidarité organique, comme Durkheim nous disait que nécessairement les sociétés industrielles allaient fabriquer, que Durkheim pensait qu'elles allaient fabriquer, je ne vois pas apparaître. Donc tout ça fait que c'est pas juste colmater Wall Street, il faut évidemment le faire, je crois que c'est quelque chose de plus profond, on le sent bien, on sent qu'il y a quelque chose qui est perdu, en fait, du monde qui avait émergé de la crise de la première moitié du XXe siècle. Donc c'est ça qui me rend inquiet. Et au fond, la crise, on peut dire, c'est la crise de 29 qui a failli se répéter et qu'on a évité. Donc très bien, bravo, l'histoire a été apprise et elle l'a été indiscutablement. On n'a pas commis les mêmes erreurs qu'en 1929. On a empêché les banques de faire faillite, on a mené des politiques de relance, etc. Mais à l'aune des problèmes que je viens de dire, ça vient de plus loin. Je ne suis pas sûr que pour le coup, on ait une recette.
Jean-Claude Casanova, vous êtes sur cette même ligne pessimiste ou inquiète en tout cas.
Non, mais je crois, si vous voulez, que la fragilité est dans la nature des sociétés humaines. Les sociétés agricoles étaient extrêmement fragiles à cause des risques climatiques. Le Maroc d'aujourd'hui est encore sensible au fait qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, et que cela a des conséquences immédiates au point de vue social, politique et économique. Les sociétés complexes d'Occident ont comme fragilité ce qui est lié à deux phénomènes qui les caractérisent, c'est-à-dire l'extrême complexité ou division du travail. Tout dépend, les malheureux licenciés, ceux qui perdent leur emploi dans telle ou telle entreprise en France sont dans des entreprises mondiales, etc. Donc tout le monde est dépendant de tout le monde. Donc la complexité crée, si vous voulez, la dépendance. Et d'autre part, les sociétés modernes, comme c'est le mot post-industriel qu'utilise Daniel qui m'y fait penser, sont caractérisés par une gigantesque création de créances, d'instruments financiers. Or, les instruments financiers, ça repose sur la confiance. Parce que ce n'est rien, les instruments financiers, ce sont des créances. Donc, a priori, si la confiance brusquement s'effondre, eh bien, tout peut être remis en question. Et donc, cette combinaison de financiarisation et de division du travail et complexité, rendent nos sociétés fragiles, à elles de trouver les remèdes. Après tout, l'histoire ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre. Donc, la société moderne, de trouver les moyens de résoudre cette double difficulté. Elles sont fragiles, mais c'est dans la nature des sociétés humaines de l'être, je crois.
Daniel Cohen, évidemment, votre livre ouvre des perspectives qui sont en effet inquiètes et vous esquissez quelques contours, mais il est évidemment très difficile de se projeter dans l'avenir. Néanmoins, je ne dirais pas vous flirtez avec, mais vous vous rapprochez un petit peu des thèmes de la décroissance parfois. Enfin, en tout cas, vous commencez d'évoquer cette problématique. Comment l'éviter précisément ? Comment éviter comment éviter plus précisément, mais vous me direz peut-être ma question est trop vaste à l'heure qu'il est, que l'écologie ne se transforme en dogme et que de ce dogme naisse une nouvelle idéologie de la décroissance qui, pour le coup, sera, me semble-t-il, démentie par le reste du monde. Je parle pour nous, là, Daniel Cohen.
Oui, non, mais moi, je veux dire que la question de la décroissance met le doigt sur la pathologie de nos sociétés modernes, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il faut de la croissance pour être heureux. Bon, alors s'il faut de la croissance pour être heureux, annoncer la décroissance, c'est annoncer le malheur à tout coup, et donc c'est pas de très bon augure. Non, moi je crois que c'était Edgar Morin qui disait ça, il faut de la décroissance dans certains secteurs et de la croissance dans d'autres. C'est bien ça l'intelligence qu'il faut mobiliser aujourd'hui, la croissance vers les secteurs qui soient compatibles avec leur extension, leur généralisation au reste de la planète, et de la décroissance là où on voit bien, vous citiez le problème des matières premières, du pétrole. Il y a une autre statistique, je trouve très extraordinaire pour nous tous, grands consommateurs de livres, c'est que si la Chine avait la même consommation de papier par tête que les États-Unis, mais c'est les deux tiers des forêts mondiales qui devrait y passer. Donc il y a vraiment là quelque chose de neuf qui nous oblige à réfléchir à ce qu'il faut faire. C'est de la croissance, si on veut. C'est-à-dire développer de nouvelles façons de lire qui soient moins papivores, oui. c'est très important. Donc je vois plutôt ça comme ça, et je veux certainement pas qu'on imagine que la solution sera on arrête tout, parce que effectivement cette solution qui peut être tentante intellectuellement, là je crois que d'abord, vous disiez Jean-Marie, elle serait immédiatement contredite par les autres pays, puis ce serait tout de même une des faits de la raison. Donc il faut savoir qu'il y a un problème de surconsommation, que c'est ça le moteur de nos sociétés, c'est notre vice, il faut le guérir, et donc pas question de dire on continue comme si de rien n'était, il faut le guérir en trouvant d'autres voies de prospérité que celles qui justement se nourrissent de la planète.
Oui, parce qu'en effet, continuer comme si de rien n'était, ça nous ramènerait au point de départ qui précisément a provoqué la crise actuelle. Merci Daniel Cohen de nous avoir éclairé et d'être allé un peu plus loin avec nous sur ce livre, donc, dont je rappelle le titre qui s'appelle « La prospérité du vice » et dont le sous-titre est « Une introduction parenthèse inquiète », fermez la parenthèse à l'économie, ce qui est évidemment très explicite. C'est un livre, c'est pas un livre massif, hein. C'est un livre qui fait 280 pages, donc c'est un livre assez court, fait de petits chapitres, extrêmement bien fait, extrêmement clair, extrêmement accessible. Et donc, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, et si on veut prendre un petit peu une perspective historique, je crois qu'on ne peut que recommander la lecture de ce livre qui est « La prospérité du vice », donc, de Daniel Cohen, paru chez Albin Michel. Merci donc à Daniel Cohen. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir retrouvés fidèlement à cette rumeur du monde que nous serons heureux de vous présenter, Jean-Claude Casanova et moi-même, de nouveau samedi prochain.